Chapitre 26.
Émile !
La porte s'ouvre et la fille apparaît. Elle porte un grand chapeau noir à large bord et un ensemble noir beaucoup trop grand pour elle.
Tu es là ?
Fait-elle avec une pointe de soulagement. Il ne comprend pas son inquiétude.
Ouais ?
Viens, viens manger. J'ai fini le travail sur le chantier.
Il étire ses jambes qui sont raides à force de rester repliées sur le rebord de la fenêtre et il acquiesce.
J'arrive !
Il la regarde disparaître dans le petit couloir et il saute au sol. Avant que la neige ne fonde, lui aussi participait au chantier, avec elle et les deux jeunes filles canadiennes. Il ne se souvient plus de leurs prénoms. Et puis après, elle a refusé qu'il vienne travailler.
Pourquoi ?
A-t-il demandé en s'énervant.
À cause des malaises.
Il ne se souvient pas avoir fait des malaises. Pourtant, Hippolyte et les jeunes filles canadiennes confirment les paroles de Johan. Il s'est évanoui deux fois.
Chute de tension, a précisé Johan. Il faut que tu te reposes.
Il s'ennuie un peu maintenant. Alors l'autre jour, Johan lui a dit
« Tu n'écris plus dans ton carnet ?»«
Quel carnet ?»«
On tient chacun notre carnet de voyage, tu sais. »«
Ah bon ?»
Il ne voyait vraiment pas de quoi elle voulait lui parler. Elle a acquiescé.
« Oui ?»«
Pourquoi faire ?»
Elle a hésité avant de répondre.
« Pour raconter à nos proches tout ce qu'on vit ici ?»
Il était sceptique. Il n'avait jamais tenu de carnet de sa vie. On leur racontera après. Elle n'avait pas su quoi répondre à cela. Mais elle avait sorti son propre carnet et s'était mise à écrire, en espérant peut-être qu'en lui montrant l'exemple, il finirait par changer d'avis. Alors ce matin, il a attrapé le carnet noir posé sur sa table de chevet, un peu pour lui faire plaisir. Parce qu'elle se donne du mal à s'occuper de lui. Il a vu avec étonnement qu'il avait déjà rempli des pages et des pages d'écriture dans ce carnet. Il a compris qu'elle disait vrai parfois quand elle prétendait qu'il avait des trous de mémoire ou quand elle expliquait qu'ils étaient ici pour qu'il se repose, pour l'air pur de la montagne, pour oxygéner son cerveau. Il n'a pas lu les autres pages qu'il avait écrites. La constatation de ses pertes de mémoire l'a beaucoup trop remué. Il traverse la chambre et s'arrête sur le seuil, remarquant qu'une nouvelle toile a rejoint l'exposition de la fille sur le sol de leur chambre. Elle peint beaucoup. Quand elle ne lit pas ou qu'elle n'écrit pas dans son carnet, elle peint. Ce dernier tableau le trouble et il reste quelques secondes immobile, incapable d'être certain qu'il s'agit bien de ce qu'il pressent. La voix l'appelle de nouveau dans le couloir.
Émile ?
J'arrive !
Il s'approche de la toile pour la détailler. Il y reconnaît immédiatement leur chambre ici à l'annexe. Le couvre-lit vert canard, le sommier en fer blanc, les murs dont la peinture crème s'écaille, la lumière faible qui éclaire à peine la pièce. Quelqu'un est allongé sur le lit, dans une position décontractée, un genou replié, un bras derrière la nuque, l'autre tenant un stylo. Un petit carnet noir, identique au sien, est posé sur le matelas à côté de lui. Le jeune homme est plutôt grand, brun, et on devine une barbe de quelques jours à peine sur son visage. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'il a l'air serein. Émile reste là, figé devant la toile. Il a l'impression que... Il se demande si... Les yeux noirs en amande du jeune homme lui semblent familiers. Il a du mal à détacher son regard de la toile. Depuis la cuisine, il entend résonner les rires des jeunes filles canadiennes. Il entend le bruit d'une casserole qu'on dépose sur la gazinière rouillée. Il se force à se remettre en mouvement, lentement. Il jette un dernier coup d'œil à la toile avant de quitter la chambre. Il en est presque sûr maintenant. C'est lui que la fille a peint sur cette toile. Quand ? Pourquoi ? À quelle occasion ? Il ne parvient pas à identifier le malaise qui grandit dans sa poitrine. Comme une impression d'incomplétude, comme s'il manquait de nombreuses pièces à son puzzle. Dans la cuisine, devant la gazinière rouillée, Johan laisse son regard se perdre à travers la petite fenêtre crasseuse sur le domaine d'Hippolyte entouré de montagnes. Les vallons sont parfaitement visibles depuis quelques jours, depuis que le printemps a décidé de s'installer et que le voile nuageux dans le ciel s'est levé. Pourtant, elle ne voit pas le paysage. Ses pensées sont ailleurs. elle repense à la toile qu'elle a enfin terminée cette nuit très tard. Alors que l'annexe était totalement endormie, elle s'est installée dans la petite cuisine devant une tasse de thé vert et elle s'est décidée à terminer cette toile, entamée il y a de cela 3 mois. Elle a laissé son regard se perdre sur le rebord de la petite fenêtre où trônent encore les minuscules sapins en brindilles qu'ils avaient fabriqués en attendant Noël. Ses yeux s'y sont attardés. Elle a noté avec une pointe de tristesse que cette époque lui paraissait désormais bien lointaine. L'odeur des oranges, les papiers froissés des papillotes, le puzzle 500 pièces. C'est à cette époque qu'elle avait commencé le tableau d'Émile, allongé dans ce lit en train d'écrire. Ils avaient fait l'amour cet après-midi-là. Elle avait abandonné son tableau à moitié peint sur le rebord de la fenêtre. Et puis elle avait été incapable de le terminer. Le réveillon de Noël était passé, et alors tout avait déraillé. Il n'avait plus jamais été lui-même. Joanne abandonne la fenêtre et les vallons du regard pour remarquer l'arrivée d'Émile dans la petite cuisine. Il a l'air chamboulé. Il a souvent l'air bouleversé depuis qu'il est bloqué là-bas, depuis qu'il essaie de faire coller sa réalité aux choses qui l'entourent. Elle le regarde s'asseoir à la table en bois et demander à Rebecca, l'une des deux jeunes filles canadiennes. « On est quel jour ?» Son regard se perd de nouveau au fond de la casserole de petits pois cette fois. Après Noël, les blackouts passagers se sont transformés en véritables voyages, là-bas, dans son autre réalité, dans son autre espace-temps où des personnages du passé refaisaient surface. Il restait là-bas des jours et des jours, parfois des semaines. En ces rares occasions où il était revenu ici, il s'était montré perturbé, angoissé. Elle avait fini par lui souhaiter de ne plus revenir, même si c'était douloureux pour elle. Même si son Émile, celui d'avant, celui qui était bloqué ailleurs, lui manquait. La première fois qu'il était revenu, il avait paru serein et apaisé de la revoir. C'était en pleine nuit, au milieu du mois de janvier. Il avait murmuré son prénom et elle avait cru défaillir de soulagement, car cela faisait des semaines qu'il la regardait sans la reconnaître. Joanne ? Elle s'était retournée pour lui faire face dans le lit, fébrile. Par la fenêtre ouverte, un croissant de lune éclairait ses épaules, son cou, son visage souriant. Il était heureux. « On est toujours chez Hippolyte ?» avait-il chuchoté. Et elle avait acquiescé sans lui préciser que cela faisait des semaines que Noël était passé et qu'il avait disparu, là-bas. Il l'avait prise dans ses bras et elle s'était laissée envelopper par sa chaleur. Ils étaient restés immobiles dans les bras l'un de l'autre. Joanne avait été sur le point de se rendormir, priant pour que demain matin il soit encore là, avec elle, quand sa voix avait retenti de nouveau. Toutes les instructions sont écrites sur une feuille, dans le carnet noir. Je l'ai glissé dans l'élastique de la couverture.
Quoi ?
Elle avait eu du mal à émerger du sommeil et à prendre conscience de ses paroles. Les instructions pour ramener le carnet à mes parents. Elle avait songé qu'il avait peut-être senti, finalement, qu'il avait disparu depuis longtemps et qu'il risquait de ne plus revenir. Que c'était pour cette raison qu'il lui parlait des instructions. Elle avait acquiescé.
« D'accord, je garderai la feuille avec moi. »«
Ce serait mieux. »
Il s'était tu, rassuré. Il avait joué quelques instants avec les mains de Joanne, avec ses doigts qu'il trouvait minuscules, avec son alliance qu'il faisait tourner autour de son annulaire. Il avait continué de jouer avec l'alliance en souriant dans la semi-obscurité de la chambre. Puis il s'était endormi, l'air apaisé. Les fois d'après, quand il était revenu, il n'avait jamais été lucide, ni aussi apaisé. Il s'était montré confus, agité, nerveux. L'un de ses retours s'était soldé par une crise d'angoisse et elle en était venue à lui souhaiter de ne plus revenir. Oui, tout avait vraiment déraillé après Noël et Joanne n'avait plus été capable de peindre cette toile représentant un Émile apaisé, une époque où ils avaient partagé une dernière parenthèse tous les deux, sans savoir que c'était la dernière. Il lui avait fallu du temps, 3 mois, comme un temps de latence et de deuil pour achever son œuvre et pour décider de quitter le domaine d'Hippolyte.
Ça va ?
Interroge Rebecca, voyant que Joanne est bien silencieuse devant son assiette.
Oui, ça va.
Rebecca et Emma sont deux jeunes Canadiennes de 20 et 21 ans, venus faire un tour d'Europe avant de reprendre leurs études en université de langue à Toronto.
« On veut vous préparer une spécialité canadienne pour ce soir », déclare Emma avec son fort accent.
Joanne se force à sourire et à acquiescer.
« Oh, qu'est-ce que c'est ?»« Des pains de viande ».
Émile mange en silence à côté d'elle. Il a du mal à participer aux conversations depuis quelque temps. Il est souvent agité, dissipé. Il se concentre rarement sur une tâche plus de quelques secondes. D'autres signes de la maladie, sans doute.
Qu'est-ce que c'est ?
Un genre de rôti avec de la viande hachée, de la mie de pain trempée dans du lait, des oignons et... Et des œufs, termine Rebecca, avec une bonne dose d'épices.
Joanne s'efforce d'avoir l'air enthousiaste.
Ça a l'air bon ?
Personne ne semble jamais se rappeler qu'elle ne mange pas de viande. Autrefois, Émile s'en souvenait. Il faisait énormément d'efforts pour lui cuisiner des plats végétariens. Le nouvel Émile est bien souvent plongé dans des rêveries, sans doute de vieux souvenirs qui déferlent. Il parle peu, il n'écoute plus vraiment les conversations. Les trois filles relèvent la tête en le voyant se lever brutalement.
« Où tu vas ?»
interroge Joanne. Elle déteste devoir le surveiller comme ça, mais elle n'a plus le choix depuis qu'il a disparu la semaine dernière. Elle est rentrée du chantier et il n'était plus là. Ils l'ont cherché tous les quatre pendant une bonne heure avant de le retrouver dans le petit bourg d'As, complètement ahuri.
« Je voulais rejoindre Renaud à la cafétéria », a-t-il déclaré.
Dans la cuisine, Émile se dirige vers la petite fenêtre crasseuse.
« Le chat est revenu », dit-il.
Elles ne comprennent pas tout de suite ce qu'il veut dire, mais l'instant d'après, il ouvre la petite fenêtre et Poc bondit au milieu de la cuisine.
« C'est Poc ?»
lui indique Rebecca avec douceur.
Je connais pas les noms de tous les chats errants des Pyrénées.
Les deux filles lancent un regard désemparé à Joanne. Elles ne sont pas encore totalement habituées aux oublis d'Émile. Il a bien fallu les mettre dans la confidence. Émile passait son temps à demander à tout le monde « Où on est ? Vous savez qui m'a amené ici ? Pourquoi on me ramène pas à Roanne ? Vous êtes des amis de Marjo ?» Elles sont toujours gentilles avec Émile. Elles répondent à ses questions, même les plus insistantes et les plus répétitives.
« Ce n'est pas un chat errant, » explique Emma. « C'est Poc, c'est ton chat. »
Joanne fait signe discrètement aux deux filles de laisser tomber.
« Je le saurais si j'avais un chat, » répond Émile en revenant s'asseoir à la table.
Personne n'insiste. Il reprend son repas et quelques minutes plus tard, quand il a terminé, Joanne récupère son assiette et lui intime doucement.
« Va te reposer un peu. Je te réveillerai en rentrant. »
Dans la petite cuisine de l'annexe, les trois filles font la vaisselle en silence.
« Alors vous partez ? Je veux dire, pour de vrai ?»
interroge subitement Emma. Joanne fronce les sourcils sans comprendre.
« Oui, pour de vrai. »
Elle ajoute sur la défensive.
« Pourquoi ?»
Emma a un mouvement d'épaule impuissant.
On pensait que vous resteriez avec nous jusqu'au mois de mai ?
Oui,
confirme Rebecca. On s'était habitué à vous.
Joanne ne peut pas s'empêcher de sourire devant leurs deux mines déconfites.
Et puis, Hippolyte avait l'air inquiet avec les malaises d'Émile,
ajoute Emma. Joanne se souvient des longues discussions entre deux portes de l'annexe avec Hippolyte lorsqu'elle lui a annoncé qu'il comptait repartir.
Vous n'êtes pas plus fine qu'une brindille. Qu'est-ce que vous ferez s'il tombe ?
Pourtant, il le faut bien. Émile est épuisé, les malaises se multiplient et il ne peut plus participer à l'avancement du chantier. Il passe ses journées enfermé dans sa chambre à tourner en rond et elle craint chaque minute de la journée qu'il ne s'échappe et ne se perde encore. Elle ne peut pas l'avoir à l'œil en permanence. Elle doit travailler. Sa présence ici, cette petite chambre pour deux et cette nourriture qu'Hippolyte leur offre, ne trouve de sens que parce qu'elle s'efforce de travailler pour deux sur le chantier. Or, elle s'affaiblit elle aussi. C'est Hippolyte qui lui a donné l'adresse de cet éco-hameau à Lesquin dans les Pyrénées. Un de ses amis bergers est à l'origine du projet. Rénover d'anciennes cabanes de bergers pour en faire des habitations répondant à des critères écologiques. Ce petit hameau d'une cinquantaine d'habitants essaie maintenant de développer un grand potager en permaculture afin de rendre l'éco-hameau autosuffisant en fruits et légumes. Hippolyte prétend que la communauté est toujours en recherche de volontaires pour prêter main forte.
Vous pourriez donner des cours de peinture aux enfants,
a-t-il déclaré.
Tenez, je suis sûr que ça leur plairait drôlement.
Johan s'est laissé séduire tout doucement par cette idée. Hippolyte l'a aidé à construire un itinéraire pour se rendre là-bas. Il a posté un courrier à son ami berger. Il semble rassuré de les savoir là-bas, au milieu d'une communauté, et pas seul, livré au malaise d'Émile. Il y aura toujours quelqu'un pour garder un œil sur Émile, a songé Johan. Dans la cuisine, Rebecca et Emma semblent déçues et un peu tristes de les voir partir si tôt.
On sera dans cet éco-hameau? C'est Hippolyte lui-même qui nous a donné l'adresse. Il est persuadé qu'on sera bien là-bas.
Les deux jeunes filles sont sceptiques.
Vous repartirez avec Poc?
Demande Emma. Johan acquiesce et la moue d'Emma s'accentue encore.
Lui aussi va nous manquer.
Johan sourit aux deux jeunes filles qui lui paraissent tout à coup plus jeunes qu'elles ne le sont.
Les vrais départs, les plus tragiques, sont ceux qui n'auront jamais lieu,
déclare-t-elle avec un petit air énigmatique. Elle les voit froncer les sourcils, échanger des regards. Son sourire s'élargit encore et elle quitte la cuisine sur ces mots.